France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la catastrophe d'Apollo 1. Le vendredi 26 janvier 1967, les astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, autrement dit deux stars de la conquête spatiale et un nouveau, s'installent à bord de la capsule Apollo 1. À un mois du décollage de la toute première mission du fabuleux programme lunaire américain, les trois hommes prennent part à une ultime simulation, un test de routine avant le grand envol. Mais lors de ce test, marqué par d'importants problèmes de communication, la situation dégénère en un fragment de seconde, la capsule s'enflamme et les pionniers d'Apollo périssent. Plus grande catastrophe de l'histoire de la conquête spatiale américaine, l'accident qui a coûté la vie aux trois astronautes met un frein aux ambitions lunaires de l'Amérique, que beaucoup auraient pu croire définitif. Pourtant, après une enquête minutieuse qui permet de faire la lumière sur ce tragique accident, la NASA parvient à se relever en un temps record et à envoyer comme prévu des hommes sur la Lune 2 ans et demi plus tard. Notre invité aujourd'hui, l'ancien spationaute français Michel Tognini. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Lundi 21 mars 1966, Houston, Texas. Il y a foule ce jour-là dans la salle de presse du centre des vols spatiaux habités, le cœur opérationnel de la NASA. Et pour cause. 4 ans seulement après le lancement officiel de la conquête lunaire par le président Kennedy, l'agence spatiale américaine s'apprête à entrer dans la phase finale de son ambitieux plan avec le lancement du programme Apollo. Un programme qui, après Mercury et Gemini, doit permettre aux astronautes américains de poser le pied sur la Lune. Walking on the Moon. Oui, c'est une journée spéciale pour les responsables de la NASA qui présentent ce jour-là les membres d'équipage de la mission Apollo 1. Installés devant les journalistes, ils sont trois. Le vétéran et très populaire Virgil Gus Grissom, dit Gus, l'expérimenté Edward White, premier américain à avoir réussi en juin 65 une sortie extravéhiculaire reliée au vaisseau Gemini 4 par un simple câble, et le tout jeune Roger Chaffee, un équipage de pionniers qui se prête tout sourire au jeu des questions devant des journalistes du monde entier.
Les premières missions Mercury et les expériences Gemini ont porté ce pays vers la prochaine étape majeure, la première mission habitée du programme Apollo. Voici les trois hommes qui s'envoleront pour cette mission. L'astronaute Roger Chaffee.
Il est inutile de dire que je suis vraiment excité d'être affecté à cet équipage. Et je crois que j'ai deux des meilleurs hommes sur Terre avec qui travailler.
Le pilote expérimenté Edward White, on se souviendra de lui pour sa première sortie dans l'espace.
On travaille déjà sur le programme, on s'est mis en vitesse de croisière et on a tous hâte de ce vol.
Et le commandant Virgil Grissom, l'un des premiers astronautes, ce sera son troisième vol dans l'espace.
Les trois hommes le savent, leur mission n'est que la première du programme Apollo. Ils ne s'approcheront pas de la Lune. Ils se contenteront, si je puis dire, d'un simple séjour en orbite terrestre. Pourtant, ils savent aussi que ce tout premier vol du nouveau vaisseau spatial de la NASA est loin d'être sans enjeu. Parce que ce sont eux, ces trois astronautes-là, qui doivent ouvrir la voie et préparer le terrain pour les prochains équipages du programme. Trois hommes qui savent à quel point ils vont marquer l'histoire de la conquête spatiale avec cette mission Apollo 1, faisant écho à l'un des discours les plus célèbres du président John Kennedy.
Nous allons dans l'espace, car quoi que l'humanité doive entreprendre, les hommes libres doivent y participer pleinement. Je crois que cette nation doit s'engager à atteindre le but avant la fin de cette décennie, de faire atterrir un homme sur la Lune et le ramener en toute sécurité sur Terre. Aucun autre projet spatial ne serait aussi impressionnant aux yeux de l'humanité ou plus important pour l'exploration de l'espace. Aucun ne serait aussi difficile ou cher à accomplir.
Distancée par le rival soviétique qui domine alors la course à l'espace, l'Amérique doit à tout prix redorer son blason. Avec la conquête lunaire, le président Kennedy, et derrière lui son pays tout entier, espère ainsi faire oublier Spoutnik, Laïka et le récent vol de Yuri Gagarin. Et surtout, n'oublions pas que nous sommes en pleine guerre froide, en pleine tension entre les deux grands. Oui, Apollo est aussi un programme politique. Pour la NASA, ce nouveau cap marque un changement de paradigme. Le budget de l'agence spatiale américaine explose et des centaines de millions de dollars viennent désormais alimenter une industrie en plein boom, toute entière tournée vers l'ambition lunaire. C'est aussi un bouleversement pour ceux qui incarnent presque à eux seuls cette ambition, les astronautes américains. Pour l'heure, ils ne sont que sept. Surnommés les Mercury 7, les 7 de Mercury, ils sont les tout premiers à endosser la combinaison spatiale ornée de la bannière étoilée.
Seven men emerged from this competitive purgatory as the Project Mercury astronauts. Captain Virgil I. Grissom, United States Air Force, age 33, from Mitchell, Indiana. Lieutenant Colonel John H. Glenn, United States Marine Corps, age 38, from New Condom, Ohio.
Recrutés en 1958, ils sont issus de l'armée de l'air ou de la Navy. Tous sont pilotes de chasse, avec de solides états de service. Parmi eux, on retrouve des noms qui vont marquer l'histoire, comme John Glenn, Dick Slayton ou Alan Shepard. Dans cette première promotion, se trouve aussi Virgil Grissom. Cette forte personnalité, que tout le monde appelle Gus, ou le Pouce, oui, en raison de sa petite taille et de son physique trapu, est un pilote d'essai chevronné qui compte plus de 100 missions en Corée. Grissom et ses camarades de promotion sont les astronautes de Mercury. Initié avant l'annonce de l'enquête lunaire, ce programme, Mercury, doit permettre à l'Amérique d'envoyer pour la première fois un homme dans l'espace. Et tout est nouveauté. Par exemple, on ne sait pas encore si le corps humain est réellement capable de surmonter la puissance d'un décollage, s'il peut résister à un séjour en orbite ou encore encaisser une rentrée dans l'atmosphère. Il faut aussi tester la capsule, qui avec son mètre cube 7 d'espace habitable, se rapproche plus d'un cercueil volant que d'un véritable vaisseau capable de naviguer durant des jours dans le vide spatial. Bref, c'est une découverte permanente.
Ces hommes flottent comme dans l'espace et ils ont plutôt intérêt à s'habituer à ce mode de vie particulier parce qu'ils sont les astronautes du programme Mercury. Les voici dans un environnement plus traditionnel, sept volontaires, gaillards, qui s'entraînent pour les premiers vols américains dans l'espace. Ils se protègent les yeux en observant une réplique de leur vaisseau exposé à 11 000 degrés, comme ce qu'ils rencontreront lors de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre. Depuis deux mois, ils enchaînent les tests et les cours à l'anglais en Virginie. Ils se préparent pour le jour où, d'ici deux ans, l'un d'eux sera envoyé dans l'espace.
Mercury, c'est le galop d'essai de la NASA. Le 5 mai 61, quelques jours seulement avant le discours de John Kennedy devant le Congrès, et après des années de préparation, Alan Shepard réalise enfin le premier vol suborbital de l'histoire des États-Unis. Si cette première est éclipsée par le succès de la mission Vostok 1 et le séjour dans l'espace de Yuri Gagarin quelques semaines plus tôt, elle permet à l'Amérique de lancer pour de bon l'ère des vols spatiaux habités. En juillet, c'est Gus Grissom qui s'y colle déjà lui. Pour cette deuxième mission du programme, on frôle la catastrophe. Après 15 minutes d'un vol suborbital sans encombre, le vaisseau termine sa course en mer. Comme prévu. Mais alors qu'il attend l'équipe de récupération, l'écoutille du vaisseau explose et très vite, l'habitacle se remplit d'eau. Grissom parvient à s'échapper in extremis avant de voir sa capsule sombrer dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Enfin, en février 62, c'est John Glenn qui est le premier à réaliser un vol orbital à 260 km d'altitude. Sous les yeux du monde entier, l'Amérique franchit enfin la véritable frontière de l'espace.
Il était 9h50 aux USA. À 160 km de la Terre, la capsule Mercury se séparait comme prévu du dernier étage de la fusée. Glenn, qu'une caméra automatique a filmé, commençait son premier tour de Terre. Trois fois, le cosmonaute faisait ainsi le tour de la Terre. Il fallait maintenant entrer dans l'atmosphère terrestre. Et de nouveau une manœuvre difficile, l'allumage des rétrofusées qui, en ralentissant la course de l'engin, allait permettre d'amorcer sa chute. À 14h40, le parachute était déployé, les amortisseurs libérés. Et 4h56 après son départ, Glenn touchait l'océan. L'extraordinaire aventure était terminée.
Mais à peine lancé, le programme Mercury semble déjà obsolète. Si les vols suivants permettent de valider certains points techniques, la minuscule capsule et le petit lanceur, qui n'est en réalité qu'un missile balistique reconditionné, sont loin de permettre à l'Amérique d'atteindre les objectifs fixés par le président Kennedy. De plus, il ne reste que 8 ans pour atteindre la Lune. Alors, la NASA n'a plus le temps de tergiverser. Et ça tombe bien, parce que ses responsables ont pris les devants. Alors même que les premiers astronautes américains viennent tout juste d'atteindre l'espace, 2 nouveaux programmes sont annoncés. Le premier est baptisé Gemini. Après Mercury, il doit permettre à l'agence spatiale américaine de franchir un nouveau cap. L'objectif est de développer un lanceur plus puissant et une capsule capable d'accueillir 2 astronautes pour des missions de plusieurs jours. Gemini doit aussi permettre de tester des manœuvres techniques avancées comme des rendez-vous en orbite, des sorties extravéhiculaires et des amarrages. Un programme comme une sorte de formation accélérée avant le second programme, celui que tout le monde attend, Apollo. Résultat, les ingénieurs et techniciens de la NASA se mettent en ordre de marche et travaillent simultanément sur ces 2 ambitions programmes spatiaux. En septembre 1962, on annonce aussi la composition de la 2e promotion d'astronautes. Les Next Nine, les 9 suivants, qui viennent étoffer un corps d'élite qui fascine l'Amérique et le monde. Parmi eux, Ed White, Jim Lovell, Frank Borman, John Young et un certain Neil Armstrong. Puis un an plus tard, en octobre 1963, quelques semaines après le dernier vol de Mercury, c'est la 3e promotion qui entre officiellement en service. Et cette fois, ils sont 14. Buzz Aldrin, Michael Collins ou encore Roger Chaffee intègrent à leur tour une équipe désormais de 30 hommes, tous focalisés sur l'objectif lunaire. Mais avant de l'atteindre, il faut d'abord se concentrer sur le nouveau programme spatial américain, Gemini.
La première étape, l'étape Mercury de la conquête de la Lune, est terminée. L'envoi d'un homme seul autour de la Terre appartient au passé. Le projet Gemini va pouvoir commencer. Maintenant, c'est 2 hommes qui graviteront dans le même satellite autour de notre planète. Le vaisseau spatial qui les emportera sera composé de 3 sections détachables. Et dans ces ateliers de construction où ne pénètre jamais le moindre brin de poussière, des techniciens qui ressemblent à des chirurgiens mettent au point les tout derniers détails pour qu'au jour J, tout soit en parfait état de fonctionnement. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, 2 astronautes se glisseront ainsi dans la capsule Gemini.
Major Virgil Grissom and Lieutenant Commander John Young arrive at Pad 19 to begin a Gemini flight that opens a new era in space.
Le 23 mai 65, tout juste 4 ans après le lancement officiel du programme, c'est le vétéran Virgil Grissom, encore lui, accompagné de John Young, qui réalise le tout premier vol habité à bord de Gemini. Une récompense pour Grissom, qui s'est largement impliqué dans le développement de la capsule, au point que celle-ci est surnommée la Gus Mobile. Un honneur aussi pour l'astronaute qui devient le premier homme à effectuer un 2e vol dans l'espace. Mission couronnée de succès qui fait de Grissom un héros national. Moins 1 mois plus tard, le 3 juin, c'est au tour de Ed White de décoller pour le vol de Gemini 4. Un homme et une mission qui vont marquer l'histoire de la conquête spatiale.
Le film que nous allons voir ensemble fera date dans les annales des recherches spatiales. Au premier plan, assis sur le rebord de la porte du vaisseau spatial, ouverte sur le vide, Edward White, prêt à se lancer. Le cordon ombilical, long de 7,50 m, qui va seul le relier à notre monde pendant sa marche hors du vaisseau spatial.
Flight director says get back in. Jimmy 4, get back in.
Allez, rentre, ça suffit. Ah bon, faut que je rentre ? Ouais, tant pis, je rentre. Si cette première sortie extravéhiculaire américaine est encore une fois un peu éclipsée par celle réalisée quelques semaines plus tôt par le cosmonaute soviétique Alexei Leonov, elle permet tout de même à la NASA d'entrer dans un rythme de développement effréné. Car après Gemini 4, l'agence spatiale américaine semble insatiable. Avec Gemini 5, on teste enfin les premières manœuvres de rencontre en orbite. Avec les missions Gemini 8 et 11, on réussit les premiers amarrages. Quant à Gemini 5 et 7, elles battent par deux fois les records de durée de séjour dans l'espace. En un temps très court, ce programme permet d'acquérir de nombreuses compétences essentielles à la réalisation de l'objectif lunaire. Et pour la première fois de l'histoire de la conquête spatiale, l'Amérique semble enfin avoir pris le dessus sur le RSS. Le 11 novembre 1966, après 10 vols habités, le programme Gemini touche à sa fin. Si 16 astronautes ont eu le droit à un séjour en orbite, ils sont plusieurs à prendre leur mal en patience. C'est le cas du tout jeune Roger Chaffee. Mais il le sait, cette attente n'est pas vaine, car bientôt, il volera à bord du vaisseau que l'Amérique tout entière attend avec impatience, Apollo. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Apollo 1.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Annoncé le 21 mars 1966, l'équipage de la toute première mission du programme Apollo est désormais au centre de toutes les attentions. Certes, ce premier vol devra se contenter d'un séjour en orbite terrestre et ne pourra qu'observer la Lune de loin, de très loin. Mais ce n'est pas une raison pour le prendre à la légère. Alors, pour sa composition, les responsables de la NASA ont fait un double choix. Celui du symbole d'abord. Avec Grissom, White et Chaffee, ce sont les trois promotions d'astronautes qui sont représentées. Des pionniers aux jeunes ambitieux, tous ont droit à leur ticket pour l'espace. Mais c'est aussi le choix de la sécurité qui est privilégié. Avec Gus Grissom, c'est un vétéran que l'on place aux commandes de la mission. À ses côtés, Ed White, le premier spacewalker américain, fait office de valeur sûre. Enfin, Roger Chaffee, 31 ans, s'apprête à réaliser son rêve et à se rendre pour la première fois dans l'espace, certes, mais il a toute la confiance de la NASA. Travailleur studieux et acharné, il est même l'étoile montante du corps des astronautes. Pour cette mission, dont le décollage est annoncé pour le mois de février 67, les trois hommes, ainsi que leurs camarades qui composent l'équipage de remplacement, sont en réalité déjà investis depuis des mois dans le travail préparatoire. Car si la conception de l'immense fusée Saturne est entre les mains de l'ingénieur Wernher von Braun, les astronautes participent déjà activement à la conception de la nouvelle capsule Apollo. Oui, un nouveau vaisseau spatial qui représente un changement radical avec celui du programme Gemini.
Apollo, c'est le nom de la nouvelle cabine spatiale américaine. L'Apollo marque une nouvelle étape. C'est une cabine de 5 tonnes, assez vaste pour que 3 hommes puissent travailler, surveiller les appareils et observer l'espace. Et cet habitacle va constituer le poste de commandement d'un véhicule de 43 tonnes comprenant une salle des machines et un LEM, ou module d'excursion lunaire, servira à transporter 2 hommes sur le sol même de la Lune.
Les défis qui entourent la nouvelle capsule sont nombreux et la pression est en son maximum. Alors que les Soviétiques sont parvenus à poser une sonde sur la Lune au début de l'année 66, Washington redoute de voir Moscou prendre une nouvelle fois l'avantage. Alors, les équipes en charge du programme enchaînent les 3-8 et ne s'accordent aucun répit. Et pourtant, les retards s'accumulent. L'entreprise North American Aviation, à qui la NASA a confié la fabrication du module de commande, ne parvient pas à suivre le rythme. Et pour cause. La conception se fait en même temps que la fabrication. Oui, un jour on installe telle mousse isolante ou telle gaine électrique et le lendemain on décide de tout changer. Les astronautes non plus ne facilitent pas la tâche des ingénieurs et des techniciens. Totalement investis dans le processus, ils multiplient les remarques et les demandes de modifications. Ergonomie des commandes, pose de velcro pour fixer les objets divers qui, faute de pesanteur, voleraient dans toute la cabine, disposition de l'habitacle. Les astronautes ne laissent rien au hasard. Après tout, c'est leur sécurité qui est en jeu. À l'image d'un Gus Grissom, qui tient absolument à ce que l'écoutille d'Apollo se ferme de l'intérieur, quitte à aller à l'encontre de la vie générale, comme le racontent d'anciens ingénieurs du programme dans le documentaire Apollo 1, histoire d'une tragédie.
Gus était très impliqué dans la conception de l'écoutille. Il a insisté pour qu'elle se ferme de l'intérieur, de sorte qu'en cas de fuite, la pression dans le cockpit maintienne l'écoutille close. Ce qui était somme toute très sensé.
Tout le monde s'est plaint de l'écoutille. Pas à cause de la sécurité, mais parce qu'elle était très dure à actionner. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, pour être honnête.
En plus de la conception de la capsule, Grissom, White et Chaffee, ainsi que les 3 membres de l'équipage de remplacement, doivent travailler sur la mise en place d'une interminable liste de procédures. Installation dans l'habitacle, checklist de lancement, manœuvre orbitale, communication ou encore rentrée dans l'atmosphère. Ce sont des centaines, peut-être même des milliers d'actions qu'il faut anticiper, détailler, scripter. La tâche est titanesque. Mais personne ne rechigne à l'effort. À la fin de l'année 66, la NASA et les membres de l'équipage de la mission Apollo 1 entrent enfin dans la dernière ligne droite. Le centre spatial de Cap Canaveral en Floride est déjà mobilisé et depuis de longues semaines pour préparer le lancement planifié pour le 21 février à suivre. La fusée Saturn 1B, la plus petite des versions du nouveau lanceur américain imaginé par Von Braun, est installé sur le pas de tir numéro 34. Ne reste plus qu'à déposer la capsule Apollo à son sommet. Pourtant, à l'approche du lancement, rien ne semble prêt. Dès son arrivée sur le site, l'état d'avancement du module de commande provoque des inquiétudes, comme le raconte l'ancien astronaute Walter Schirra, qui encadre alors la mission et qu'on retrouvera sur Apollo 7.
La façon dont Apollo 1 est sorti de l'usine de Downey m'a beaucoup contrarié. La capsule n'était pas terminée. Elle a donc été envoyée à Cap Canaveral accompagnée de tout un tas de pièces détachées. Et bien sûr, ça a provoqué du stress et une grande fébrilité au sein des équipes. Tout le monde savait qu'il fallait à tout prix continuer à avancer. J'ai discuté avec Gus et je lui ai dit, si quelque chose n'est pas normal, s'il y a le moindre problème électronique, un bruit bizarre, on arrête tout.
Mais les retards accumulés, aucune des équipes de la NASA et des entreprises impliquées ne baisse les bras et continue de travailler d'arrache-pied. Et au début de l'année 67, tout semble enfin prêt. Au sein de l'Agence spatiale américaine, certains sont inquiets, mais l'équipage, lui, ne cache plus son envie de décoller. Interrogé par la presse sur cette première mission Apollo qui ne verra pas la Lune, rappelons-le, Gus Grissom affirme vouloir profiter de ce vol pour battre une nouvelle fois le record du plus long séjour dans l'espace. L'objectif affiché, au minimum 14 jours en orbite. Le vendredi 27 janvier 67, moins d'un mois avant le décollage d'Apollo 1, les trois membres de l'équipage prennent la direction du pas de tir numéro 34. Ce jour-là, ils participent à une ultime simulation de compte à rebours. Une dernière répétition générale pour tester notamment les liaisons radio avec le centre de contrôle. Un point qui pose problème aux équipes de la NASA depuis plusieurs semaines. Vêtus de leur combinaison, les astronautes empruntent l'ascenseur qui les mène à 68 mètres de hauteur au sommet de la fusée Saturne, toujours protégé par un hangar mobile. Il est un peu plus de 14 heures quand ils s'installent dans l'habitacle exigu de la capsule Apollo. Le commandant Gus Grissom prend place sur le siège gauche, Ed White est au centre et Roger Chaffee s'installe à droite. À part une odeur désagréable qui se dégage du module, toutes les données semblent nominales, tout va bien, rien à signaler. À 14h45, l'écoutille est verrouillée, la cabine est pressurisée. À l'extérieur, une dizaine de techniciens sont présents. Cette simulation doit durer jusqu'à 19h30. Durant plus de 3 heures, les astronautes enchaînent les essais de communication radio entre le module de commande et le centre de contrôle. Mais comme l'avaient redouté les responsables de la mission, les échanges sont compliqués. Les voix sont brouillées, les esprits commencent à s'échauffer. Gus Grissom lance « Comment fera-t-on pour communiquer depuis la Lune si on n'arrive pas à se parler ici ?» Et White d'ironiser « Ils n'entendent rien à ce que tu dis, Gus. » À T-10 minutes, le compte à rebours est suspendu. En cause, une fuite du liquide de refroidissement qui se déverse sur les câblages internes de la cabine. À 18h30 et 20 secondes, alors que tout le monde est en attente pour reprendre le décompte, des opérateurs du centre de contrôle s'inquiètent de voir que le pouls des astronautes augmente. Des données télémétriques indiquent également que la capsule bouge. Et puis soudainement, à 18h30 et 54 secondes, les techniciens présents aux abords du vaisseau observent un éclair de feu. Un court-circuit vient de se produire quelque part dans les centaines de kilomètres de câbles de la cabine. À 18h31, les opérateurs radio perçoivent une communication en provenance de Gus Grissom. Vous allez l'entendre. C'est quelque chose de terrible, absolument déchirant. Gus Grissom dit « Nous avons un feu dans la cabine ». À 18h31 et 16 secondes, c'est Chaffee qui parvient à communiquer. « Nous avons le feu à bord, laissez-nous sortir, nous brûlons !» Un opérateur observe un moniteur de contrôle. Il distingue Ed White, les bras levés, tentant d'ouvrir l'écoutille. Les techniciens présents à l'extérieur de la cabine tentent de faire sauter la trappe pour libérer les astronautes. Ils se brûlent les mains sur le métal rougi par la chaleur. À l'intérieur d'Apollo, rempli d'oxygène pur, le feu se propage à une vitesse folle. La température dépasse les 1500 degrés. Moins de 30 secondes après le départ du feu, un hublot finit par exploser sous la pression. Une fumée noire et épaisse envahit la salle où les techniciens affolés se relaient pour tenter d'éteindre l'incendie à l'aide d'extincteurs en vain. Plusieurs d'entre eux sont blessés. Il faut encore plusieurs minutes pour parvenir à faire sauter l'écoutille. Mais il est trop tard. À l'intérieur de la cabine, le décor laisse les premiers observateurs sans voix. Et très vite, la nouvelle fait le tour du monde.
Interactualité présentée par Roland Mel.
À Cap Kennedy, 3 hommes viennent de trouver la mort dans des conditions particulièrement atroces. Edward White, Virgil Grissom et Roger Chaffee se trouvaient depuis 3 heures dans leur cabine spatiale à 66 mètres de haut au sommet de la gigantesque fusée Saturne. Soudain, une épaisse fumée noire sort de la capsule. Les équipes de secours se précipitent. Quand les hommes peuvent enfin ouvrir les hublots, ils trouvent les corps carbonisés des trois cosmonautes.
Les corps de Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee sont extraits de la capsule Apollo moins d'une heure après le départ du feu. Dans les jours qui suivent, les trois membres de l'équipage Apollo 1 ont droit à des funérailles nationales en présence du président Johnson. Dès le 28 janvier 1967, les responsables de l'agence spatiale américaine mettent en place une commission d'enquête chargée de déterminer les causes de l'incendie. La capsule calcinée est descendue du sommet de la fusée Saturne pour être transportée dans un hangar où un autre module de commande Apollo est déjà entreposé. Durant plusieurs semaines, plus de 1500 techniciens et ingénieurs aéronautiques démontent pièce par pièce les deux engins, les analysent et les comparent pour tenter de comprendre les causes de l'accident. Le 5 avril, moins de trois mois après l'incendie d'Apollo 1, la plus grave des catastrophes de l'histoire de la conquête spatiale américaine, la commission rend son rapport à l'administrateur de la NASA. 3000 pages, que résume John Tribe, un ingénieur du programme, dans le documentaire Apollo 1, Histoire d'une tragédie.
In retrospect, we put the story together.
Nous avons ainsi pu déterminer qu'une simple étincelle avait probablement enflammé le velcro ou le filet en nylon. Et à cause de l'oxygène pur, une boule de feu s'est formée et a envahi toute la capsule. Tout s'est embrasé d'un coup. Le véhicule tout entier a pris feu.
À la suite de l'accident, le programme Apollo est totalement gelé. Si certains politiques exigent l'abandon pur et simple de l'ambition lunaire, la majorité s'accorde pour poursuivre les efforts engagés. Une majorité qui espère encore pouvoir atteindre l'objectif fixé par le président Kennedy 5 ans plus tôt et se poser sur la Lune avant la fin de la décennie. À la NASA comme au sein de l'entreprise North American Aviation, on procède à d'importantes réorganisations. Durant des mois, les responsables des programmes de vol habité planchent sur une modification en profondeur de la capsule et des processus de conception, et de nombreux changements sont décidés. Exit l'utilisation d'oxygène pur. Désormais, on préconise un mélange de 60% d'oxygène et 40% d'azote, moins dangereux. On limite également au maximum l'utilisation de velcro, hautement inflammable, et on renforce le contrôle des composants et de l'isolation des câbles électriques. Enfin, on abandonne définitivement l'idée d'une écoutille s'ouvrant de l'intérieur. Les astronautes, eux aussi, refusent de baisser les bras. Toujours aussi impliqués dans le développement d'Apollo, ils redoublent d'attention sur les procédures de sécurité. Un travail collectif qui finit par porter ses fruits. Après une série de vols non habités, les missions avec équipage reprennent enfin le 11 octobre 68 avec Apollo 7 autour de la Terre, 20 mois après la catastrophe d'Apollo 1 et 3 avant l'extraordinaire mission d'Apollo 8 qui, en la veillée de Noël cette année-là, va permettre aux Terriens de voir la Lune de près grâce à Borman, Lovell et Anders qui tournent autour de l'astre tant convoité. Moment magique, gravé pour l'éternité dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance d'assister à cette merveille technologique et humaine. Et après seulement 4 missions Apollo, 7, 8, 9, 10, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune le 20 juillet 1969.
Altitude 5200 feet. Controllers, gonna go for landing. Retro.
Go.
Vital.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
Down.
Go.
ENC.
Go.
Econ.
Go.
Surgeon.
Go.
Capcom, we're go for landing.
Altitude 42.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. That looks beautiful.
En 2004, à l'occasion de l'atterrissage d'une sonde sur le sol de Mars, trois collines de la planète rouge sont baptisées des noms de Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee. Pour l'éternité.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Apollo 1 et notre invité Michel Tonini. Bonjour.
Bonjour.
Notre astronaute préféré, parce que c'est, je crois, la troisième fois que vous venez nous voir, comme un consultant.
Je suis abonné.
Maintenant, vous êtes abonné. Je rappelle que vous avez fait partie de la mission Soyouz pour la station Mir en 92. Vous avez donc travaillé avec les Russes et vous étiez pour le coup cosmonaute.
Oui.
Et après, vous étiez astronaute.
Astronaute, oui.
Columbia, la navette, oui. En 1999.
Et aussi spationaute pour Hermès.
Et spationaute pour Hermès, les trois, quoi. Alors, pour vous, vous faites partie du corps des astronautes, cosmonautes, spationautes. Les trois noms d'Apollo 1, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit à tous vos collègues qui vont dans l'espace?
Alors, c'est des noms qui restent dans l'histoire, parce que c'était quand même un accident extrêmement tragique, avec trois astronautes de renom qui auraient pu partir sur la Lune ensuite et qui a mis en valeur le fait qu'il fallait revoir toute la sécurité. Donc on a mis en place des exercices de sécurité par la suite avec des organismes extérieurs. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est toujours un organisme extérieur, un Safety Advisory Group, qui vient de l'extérieur, qui va évaluer toutes les procédures qui sont à l'intérieur. Pour la petite histoire, vous savez que lorsque Gagarine décolle en 61, il est reçu dans le monde entier, en Russie et aussi aux États-Unis. Et il y a une histoire d'admiration qui va se faire entre Neil Armstrong et Gagarine, hein, qui est étayé sur un livre qui est sorti en France il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et il y a des échanges. Donc, quand les Russes volent dans l'espace, ils sont invités aux États-Unis. Quand les Américains volent dans l'espace, ils sont invités en Russie. Et dans les discussions, les Russes avaient dit aux Américains, c'est très bien Apollo, et d'ailleurs les Russes étaient un peu déçus parce qu'ils voulaient aussi aller sur Apollo, enfin faire une mission Apollo sur la Lune avec un véhicule et une fusée qu'on appelait N1, qui était quatre fusées Soyouz assemblées côte à côte. Et les Russes avaient dit aux Américains, attention, parce que sur Apollo vous mettez de l'oxygène pur, c'est quand même dangereux, faites attention, parce que l'oxygène pur, s'il y a une étincelle, eh bien tout va exploser. Donc c'était à l'époque des courses de vitesse pour battre l'autre pays.
D'où l'héroïsme de Borman, Lovell et Anders, quand en 1968, ils vont tourner autour de la Lune. C'est totalement inédit. Alors, les faits ont prouvé que finalement, le matériel était prêt, hein, parce que ça s'est merveilleusement bien placé, mais il fallait y aller quand même dans ce contexte. Oui. Hein.
Et surtout, sachant qu'ils décollaient avec une fusée extrêmement puissante, Saturn V, mise au point par von Braun. Et c'était une fusée quand même, la première fusée cryogénique, avec des moteurs cryogéniques, donc difficile à mettre en œuvre, une fusée extrêmement lourde. Et on voit aujourd'hui avec le programme Artemis que des programmes de lanceurs aussi lourds sont difficiles à mettre au point et difficiles à contrôler pour la mise en décollage.
On va parler de la symbolique de cet équipage, Grissom, Chaffee et White. Il était composé d'un membre de chacune des trois premières promotions d'astronautes. Qu'est-ce que ça dit du programme Apollo et du choix des hommes?
Alors, il y avait Gus Grissom, Mercury 7, la promotion 59, donc la première promotion, puis Ed White, la deuxième promotion 62, et puis Chaffee, la troisième promotion. Donc, c'était un assemblage qui voulait signifier qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire qu'on prenait des gens de différents âges, de différents recrutements, pour montrer que Apollo allait être un programme qui allait durer longtemps. Grissom était le plus expérimenté, White un peu moins, et Chaffee avait pratiquement zéro expérience.
Mais je reviens sur ce que vous m'avez dit juste avant, quand vous me dites que les Soviétiques, pour le coup, ont conseillé les Américains. Donc on était en pleine guerre froide, Apollo est un projet politique, il s'agit de montrer quel est le modèle le plus performant entre le modèle capitaliste et le modèle collectiviste. Et en même temps, il y a une coopération, c'est-à-dire qu'on est dans la guerre froide, mais la conquête de l'espace transcende.
Oui,
hein, c'est ça.
Elle transcende déjà, parce que dès le départ, lorsque Gagarine va dans l'espace, il y a Neil Armstrong, et il va travailler à la NASA comme astronaute, mais Neil Armstrong est secrètement extrêmement admiratif de Gagarine.
Oui,
le héros, le mentor d'Armstrong, c'est Gagarine. Ce qui fait que lorsque Gagarine va dans l'espace, Armstrong l'admire. Et lorsque Gagarine meurt en 68, Armstrong demande à un de ses collègues d'aller chercher les médailles commémoratives des deux cosmonautes morts, Gagarine et Kamarov, pour les prendre avec lui. Et les premières choses qu'on a mises sur la Lune sont des médailles des deux héros soviétiques, Gagarine et Kamarov, qui sont sur la Lune depuis 69. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même
une
très forte histoire d'admiration qui a été continuée après avec le vol Apollo-Soyouz, rappelez-vous, Stafford et Leonov. Leonov, le premier qui a fait la sortie extraviculaire sur le vaisseau russe, et Stafford, qui était aussi un vétéran
d'Apollo.
Et donc ces deux personnes sont restées amies jusqu'à leur mort. Donc ils sont restés longtemps, puisqu'ils sont morts vers 90 ans à peu près, donc ils ont passé toutes leurs vacances ensemble. Donc il y a toujours eu des amitiés extrêmement fortes entre les astronautes et les cosmonautes.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Michel Tognini, vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait aller vite pour le programme Apollo, parce qu'il y avait la concurrence des Soviétiques. Mais est-ce qu'après un programme Gemini couronné de succès. C'est un formidable programme, Gemini. Est-ce qu'on peut penser que la NASA a péché aussi par excès de confiance ?
Alors, c'était des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Le vaisseau était compliqué. Rappelez-vous, le vaisseau devait, après le décollage, se retourner pour que le LEM puisse arriver. Donc, il y avait une cinématique assez complexe, arriver en orbite. Et après, il fallait faire l'atterrissage. Donc, le total était compliqué. Il y avait le lanceur à contrôler, Apollo à contrôler, le LEM à contrôler. Et tout cela était très difficile.
Ce qu'on a réussi à faire à partir d'Apollo 7.
Oui.
Et qu'on a refait avec Apollo 9 autour de la Terre.
Oui.
D'ailleurs, c'est, disons-le au passage, c'est vraiment très bien fait cette affaire Apollo. Parce qu'il y a une gradation linéaire. C'est-à-dire que Apollo 8 tourne autour de la Lune, mais juste avec le vaisseau de commande. Oui. Apollo 9 essaye le LEM, mais autour de la Terre. Et Apollo 10 va essayer les deux, le commande et le LEM, mais autour de la Lune.
Oui.
Donc, il y a vraiment une gradation comme ça qui avait été planifiée par Werner von Braun, je crois,
oui.
Et qui est là, pour le coup, vraiment très logique, très pertinent.
Et d'ailleurs, Apollo 10 est descendu vers la Lune, et ils ont rattrapé au dernier moment, mais c'était quand même un peu dangereux. Et d'ailleurs, quand on regarde les programmes Artemis aujourd'hui, c'est la même chose. La mission Artemis 1 qui a décollé il y a 2 ans était automatique. Artemis 2 qui va décoller le mois prochain sera habité autour de la Lune, mais un peu plus loin que les missions Apollo. Et après, les prochaines missions seront avec un atterrissage sur la Lune, un alunissage.
Alors, parlons d'Artemis, donc. Le 1, c'est fait. Le 2 arrive, vous dites, dans combien de temps ?
Le mois de mars, début mars.
Début mars. Donc là, on a des astronautes.
On a des astronautes. On a 3 Américains, dont une femme, et un Canadien.
Absolument.
Et là, c'est pour montrer aussi que dans les plusieurs missions, ce sont des missions de collaboration, puisque la mission d'après, il y aura un Japonais. Les 3 missions d'après, il y aura des Européens, donc Allemands, Français, Italiens. Le module de propulsion et de navigation d'Orion, c'est un module de service qui vient de l'ATV développé par les Européens. Donc toutes les missions qui iront sur la Lune et qui ont commencé sur la Lune seront propulsées et naviguées par les Européens. Donc on n'a pas un rôle numéro un, on a un vol collaboratif. Et c'est quand même assez bien parce que quand on regarde les missions lointaines qui iront sur Mars, elles sont obligatoirement en collaboration tellement elles sont complexes,
bien sûr,
difficiles,
coûteuses en plus.
Et coûteuses.
Donc il faut s'y mettre à plusieurs. Alors je reviens à Artemis 2. Donc décollage en mars, on est d'accord. Des humains, donc vol habité.
Oui.
On tourne autour de la Lune au bout de quoi ? De 4 jours, faut 4 jours à peu
3
près ?
3 jours.
3 jours. Et là, est-ce que vous ne craignez pas ? L'aventure d'Apollo, elle est fascinante parce que l'image est floue, justement. Et que ça passe par le son. C'est très fascinant, le son des astronautes et le bip-bip qu'on entend et cette voix un petit peu déformée. Des images floues qui entretiennent le mystère, la fascination. Là, on va voir des images parfaitement nettes.
Oui. Alors tant mieux, comme ça.
Oui, tant mieux, mais en même temps, il y a une part de romantisme qui va partir un peu, non ?
Non, enfin oui, certainement, mais sur le plan technique, c'est différent parce que la mission lunaire était faite pour démontrer qu'on pouvait aller sur la Lune, donc se poser sur la Lune. L'émission Artemis, c'est pour démontrer qu'on va pouvoir rester autour de la Lune, puisque Orion n'ira pas sur la Lune, mais ira se docker, enfin l'amarrage, sur une station spatiale autour de la Lune qu'on appelle Gateway, dont les modules sont déjà prêts et prêts à décoller. Donc on n'est plus du tout dans le même système qu'Apollo. On est dans un système de rejoindre d'une station spatiale qui va tourner autour de la Lune. Et de cette station spatiale, on se posera soit sur le pôle sud, où il y a une calotte de glace lunaire qui est très importante pour savoir si cette glace peut être transformée en oxygène, hydrogène, ou en eau, et en par électrolyse, hydrogène, oxygène, qui sont importants pour les astronautes et pour les moteurs. Le centre, où il y a peut-être des matériaux importants comme l'hélium-3, et le pôle nord. Donc on peut aller sur n'importe quel point qui nous intéresse. Et l'opération sur la Lune va durer quand même 20 à 30 ans.
Alors, on parlait de la Lune comme première étape vers une exploration d'autres planètes. C'est toujours ça l'idée, que la Lune soit un relais ?
C'est pas vraiment un relais, mais c'est un moyen de s'entraîner pour le travail ensemble sur la Lune, mettre des systèmes qui vont nous servir pour la Lune, qui serviront pour Mars, mettre une cinématique qui va permettre d'être sur la Lune comme pour sur Mars, et surtout, le plus important, c'est d'étudier in situ les radiations qui sont mortelles pour les astronautes, ce qui fait que les missions lunaires vont durer au maximum 45 jours à cause des protons du Soleil qui nous irradient de façon extrêmement forte. Rappelez-vous qu'on n'a plus la protection de l'atmosphère ni des ceintures de Van Allen, donc on est au-dessus et donc c'est quand même assez dangereux. 45 jours max, or le vol sur Mars, c'est 6 mois minimum pour y aller, même si on est protégé par la surface de Mars après, ou dans des igloos qui seront sur Mars, les 6 mois sont quand même aujourd'hui trop difficiles par rapport aux radiations solaires. Alors, on peut décoller entre 2 pics de radiation solaire. Le problème, c'est qu'après, on a les éruptions solaires qui sont imprévisibles. Le problème, c'est que le Soleil n'envoie pas un Bristol avant de faire ses éruptions. Il fait ce qu'il veut quand il veut, sans nous prévenir. Et quand on a une éruption solaire, c'est compliqué. Imaginez-vous que même si vous mettez 1 mètre de plomb autour du vaisseau spatial, ce n'est pas suffisant pour protéger les gens à 100%. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement complexe. La vitesse de ces protons, la force des protons vont détruire les cellules dans le corps et occasionner des cancers généralisés assez importants.
Et pendant ce temps, l'ISS continue son travail. L'astronaute, donc la spationaute française, Sophie Adnaud, vient de rejoindre l'ISS. Parlez-nous un peu de l'ISS. On a tendance à l'oublier parce que c'est un train qui arrive à l'heure. Donc les journalistes n'aiment pas les trains qui arrivent à l'heure.
Alors c'est un peu ça. C'est un train qui a commencé en 98, un train qui a fait un assemblage de 10 ans d'assemblage. Des vols alternés russes et américains, 70 vols d'assemblage pour réaliser cette station spatiale, qui est l'objet le plus complexe jamais réalisé dans des conditions aussi difficiles, et en collaboration entre 5 agences spatiales, donc États-Unis, Russie, Japon, Canada, Europe, et les Européens, c'est environ 10 ou 11 pays, donc au total, il y a 15 pays qui coopèrent, et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas eu un seul problème humain ou technique dans la station, et elle devient un peu vieille maintenant, donc elle arrive à presque 26 ans, donc elle commence un peu à être usée, donc il y a des systèmes qu'il faut remplacer, et donc sa durée de vie va s'éteindre vers 2030-2031.
Et combien de temps on y reste dans
cette ISS? Alors les vols au départ faisaient 6 mois, et pour des raisons d'économie, vous savez que pour des vols de 6 mois, ça fait des overlaps d'environ 3 mois par astronaute, ça fait 4 décollages par an pour éviter de faire un décollage supplémentaire, les vols vont durer environ 9 mois. Sophie Adnaud, qui est partie avant-hier, va faire un vol de 9 mois.
Et qu'est-ce qu'on y fait?
Alors, de la science. Ouais. 40% c'est de la science, 30% c'est de la maintenance, de la réparation. Les vaisseaux qui arrivent du sol avec le matériel, on emmène les matériels dans la station. Nos déchets, on les met dans les vaisseaux. Et après, c'est le sport. Et après, c'est les communications avec le sol.
Et à votre avis, qu'a être l'engouement pour la mission lunaire habitée? Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé il y a 40 ou 50 ans, enfin c'était absolument fascinant. Est-ce que vous pensez qu'il y aura cette fascination-là, ou est-ce que, bon, on s'habitue au progrès ou...
Bah regardez, pour les vols que nous faisons dans la station spatiale, quand vous regardez le vol de Thomas Pesquet, il a été extrêmement bien réalisé.
C'était dû à lui aussi, sa volonté de communiquer.
C'était dû à lui, c'était dû au système de la communication de l'Agence spatiale européenne qui a utilisé les réseaux sociaux de façon extrêmement professionnelle. Donc tout le monde a pu bénéficier. Je peux vous dire que toutes les familles ont des enfants qui se sont intéressés à Thomas Pesquet. Donc aujourd'hui, on est dans un système de communication qui est beaucoup plus efficace qu'avant. C'est-à-dire vous êtes dans le métro, vous regardez votre téléphone, vous voyez ce que fait l'astronaute dans la station spatiale. Donc vous partagez avec lui ce qu'il fait, et donc c'est une dimension différente par rapport à ce qu'on faisait avant grâce à ces outils de communication qui sont très efficaces.
Quand je pense qu'on va vivre ça avec des gens qui vont poser le pied sur la Lune une nouvelle fois, c'est formidable. Quand on a un certain âge et qu'on a pu vivre les deux, c'est formidable.
Excellent.
N'est-ce pas?
Oui.
Bon. Très bien, merci infiniment Michel Tognini. Au revoir et à la prochaine fois.
Bien sûr, à l'année prochaine.
D'accord. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Apollo 1, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos qui vient de réaliser sa dernière émission après plusieurs décennies de bons et loyaux services sur France Inter. Il va prendre un repos bien mérité. À très vite.